La paracha de Trouma, c'est la première des parachutes qui va transmettre les prescriptions nécessaires pour la construction du Mishkan. Nous allons avoir un peu d'analyse de vocabulaire très rapide. Le Mishkan, littéralement, c'est l'endroit de la résidence, le Shachem, la Shrina, la résidence de la présence divine, tout ça, je n'ai pas encore expliqué, est relié à la notion de Mishkan, de Shachem. Shachem, ça peut vouloir dire aussi le voisin, mais c'est un autre mot de la même racine, de la même famille. Vous savez, en hébreu moderne, Shrona aussi, mais la racine fondamentale. Attends, ça va s'arranger. La racine, le sens fondamental de la racine, c'est résider quelque part. Il y a d'autres termes pour dire résider quelque part, mais c'est résider de manière dévoilée. Le sujet que je voudrais désigner là, c'est un sujet difficile. Je vais commencer par cette première notion, qui est la notion de la Shekhina. Dès le début de l'histoire du monde, on est averti que le Dieu dont on parle la Bible est un Dieu caché. Et c'est exceptionnel lorsqu'il se dévoile. Et bien entendu, il y a différentes médiations, différentes manières par lesquelles Dieu se dévoile. Mais la manière la plus privilégiée, c'est bien sûr la prophétie. Et alors, il faut bien y réfléchir, parce que dans la sensibilité religieuse générale, l'a priori positif, c'est que Dieu s'est dévoilé, c'est que Dieu est dévoilé. Et ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi il est caché. Alors que dans l'atmosphère de l'enseignement de la Torah, c'est l'inverse. C'est exceptionnel, je ne vais pas dire anormal, parce qu'il y a une alliance entre celui qui se dévoile et ceux à qui il se dévoile. Mais c'est exceptionnel. C'est un cas particulier, inattendu. Il ne faut pas s'y attendre à ce que Dieu se dévoile. Les conditions pour lesquelles la créature mérite ce dévoilement sont toujours des conditions exceptionnelles. Je vais reprendre cette idée en la simplifiant. La sensibilité religieuse, et à la limite c'est le paganisme, c'est une sensibilité religieuse qui trouve sa preuve dans le miracle. Alors que le miracle, pour l'enseignement de la Torah, est quelque chose d'exceptionnel. Alors je vais partir de là. Est-ce que, en tout cas, la manière de poser le problème est claire, hein? Et ensuite, nous arriverons rapidement à la notion de Shrina, qui va nous servir d'introduction à l'étude qu'on aura sur le Mishkan. Alors, je vous rappelle brièvement, pour ceux qui sont arrivés en retard, nous allons avoir les prescriptions de la construction du Mishkan, qui est traduit en français par le tabernacle, mais qui signifie le lieu de la résidence. Bien entendu, il s'agit de la résidence de la présence de Dieu dévoilée. Et dévoilée à certaines conditions, à certains niveaux de dévoilement. En tout, comme dans ce problème, il y a des madrigotes, il y a des niveaux. C'est une des premières leçons que nous recevions du Rav Yehuda, Zichron Libracha. En toute chose, il y a des niveaux. Et nous sommes habitués, dans la culture occidentale, à des catégorisations de différences de nature. Mais en réalité, il y a une unité profonde du tout. Et bien sûr, à un certain niveau, ça devient d'une nature différente. Mais ce sont malgré tout des différences parfois imperceptibles de niveau d'être. Cette expression niveau d'être, je l'ai emprunté à Madame Amado Alassi, qui a écrit une thèse sur les niveaux de l'être. Mais je ne parle pas ici d'un point de vue philosophique, je parle d'un point de vue de l'existence. Dieu a créé un monde, et voilà, une des principes de ce monde, c'est les madrigotes, les niveaux, d'existence dans le monde. Et je vous ai une fois donné un schéma un peu schématique de ces niveaux, vous allez sûrement vous en souvenir. Et je commence à vous rappeler le verset dans lequel je vais entrer maintenant. C'est quand je vous ai parlé, et vous allez me rappeler quel paracha, quand je vous ai parlé des cinq niveaux de l'âme, qui se souvient de ça? Quel paracha? Béchala, c'est très bien. Alors, il y a cinq niveaux de l'âme, mais dans ces cinq niveaux, dans chacun de ces cinq niveaux, il y a aussi cinq niveaux. Et donc, le schéma de base des niveaux de l'être, c'est 25 niveaux. Alors retenez que le mot, après je vous expliquerai le verset, le mot qui indique ce schéma, il y a 25 degrés de l'être à mériter pour se trouver face à face avec le Créateur. C'est la fin du programme Kamaratikum, l'achèvement de la... Comment traduire Tikkun? Ça fait mille fois que je cherche un mot pour traduire Tikkun. Il n'y a pas en français. Il y a des raisons philosophiques pour ça d'ailleurs. Tikkun, c'est le fait que le monde soit réussi, mis au point, restauré. Mais chacun de ces termes implique toute une philosophie des causes du chaos. Donc je ne vais pas rentrer dans ce problème. Mais comprenez-le en hébreu. Le tikkun de la neshama doit se faire à ses 25 degrés. En principe, et il suffit d'une vie pour le réussir. Alors vous devinez que ce sont des cas exceptionnels, on les appelle les yéridim. Ceux qui sont seuls à avoir réussi cela, yérid. Mais nous avons mille chances de retour dans l'histoire, de telle sorte d'améliorer le dossier. Et avec une grande consolation, c'est qu'on redescend jamais en arrière. Il n'y a que un sens de progrès. Ça me rappelle ce que Benobros nous a dit hier soir, dans le sens du caractère irréversible de l'optimisme qui va vers le progrès. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous êtes angoissé parce que vous n'entendez pas ou à cause de ce que vous entendez? Ce qui dit Véro se hesed la la fin Léo Havav donc je suis remis au tap et fait charité grâce par milliers pour ceux qui l'aiment et observent ses paroles. Et les kabbalistes ont indiqué que c'est à la fin, c'est milliers. C'est des mille chances données à chaque neshama de revenir en cours d'histoire. Et bien sûr d'améliorer son. Avec, vous vous rappelez de ce midrash, à chaque fois à la naissance, un ange vient fermer les lèvres pour faire oublier ce qui s'est passé avant. Et c'est très dangereux d'essayer de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Ça, je répète une autre fois, c'est une consigne des rabbins qui est très claire. Les magiciens ont des procédés pour essayer de se souvenir, mais c'est interdit. Je suppose que vous êtes au courant de ce problème. Et alors, c'est à la dernière fois, à la millième fois, après la 999e fois, qu'on sait de quoi il s'agit. Et alors, c'est très rare aussi, ceux-là qui en dévoilent, que c'est la dernière fois. Mais quand c'est la dernière fois, il faut être vraiment très scrupuleux, parce que c'est parfois sur un geste apparemment anodin qu'on peut avoir réussi ou échoué. C'est pour aller. Le scrupule moral doit être absolu. Il n'y a rien qui soit petit devant le problème de la destinée. Bien. Alors donc, toutes choses égales, il est bien entendu que ça nous est caché. Bon, je voudrais retrouver le filtre. J'ai parlé des niveaux d'être. Je sais que ça va s'arrêter, alors. Je suis désolé. Chaque fois que je change d'atmosphère, je m'adapte. Et alors, je voudrais expliquer le verset dont on apprend cela. C'est un des versets de la Agada d'Yitzhak. Lorsque Abraham dit à Ishmaël et Eliezer, je vais essayer avec l'autre. Quand Abraham dit à Eliezer, vous connaissez l'histoire du poumon gauche. Le poumon gauche, ça va pas. Et le droit, il va bien. Alors je reviens. Eh bien, quand Abraham dit à Eliezer et à Ishmaël, chez vous la chem po imahamor, vani vanahar, nunecharatku, et il ne faut pas oublier la fin du verset, venishtahave, venashuva lechem. Là va apparaître le sens du mot ko, kaveh, qui est 25. Mais il y a deux types de sainteté. La sainteté naturelle dans le monde, elle est rattachée au Créateur qui a créé la nature, il l'a créée saine. Le Rav Tzioda, j'ai l'habitude de le citer, avait l'habitude de dire Bereshit Bara. Il faut lire Bereshit Bari. Au début, tout est sain, S-A-I-N. C'est quand on cherche à rendre le saint. S-A-I-N, en ajoutant un P, que les problèmes commencent. Il y a les saints et les saufs. Donc, tout d'abord, pour revenir au sujet, il y a une sainteté naturelle. Et dans la galoute, elle nous était empêchée d'être appréciée, d'apprécier la sainteté de la nature que Dieu a créée. Bien sûr, cette nature a fait d'elle, avec un principe d'écologie, la vie entraîne les déchets. Et la nature est encombrée de déchets de son propre monde, de son propre fonctionnement de nature. Mais les hommes ont compliqué tout cela en salissant le monde. Un des arguments, lorsque les anges s'opposent à ce que Moïse prenne la Torah. Ils disent, je vais le formuler un peu à ma manière, tu leur as donné le monde et ils l'ont sali, tu vas leur donner la Torah, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est un midrash extrêmement important. Il faut que Moïse argumente avec les anges pour obtenir, arracher la Torah au ciel. Et quel est le verset? De ce que je viens de dire, c'est un verset des psaumes. Alita, Amaro, Shavita, tu es monté en haut et tu as pris une proie. La Torah, c'est une prise de guerre de Moïse sur les anges. Mais je reviens à notre verset. Il y a une sainteté naturelle et elle est reliée au mot qui désigne Dieu comme créateur. Et l'Okim, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a la sainteté au-delà de la nature, la sainteté qui doit nous mener au monde à venir. Celle-là est reliée au nom de Hachem. Et alors, dans ce récit de Hakadat Yitzhak, Abraham dit très exactement, chez vous lachem po, restez ici. Po, c'est 85, et l'Okim, c'est 86. C'est le niveau de la sainteté naturelle atteignable par l'homme, moins un. J'expliquerai après. Vani Vernar et moi et le jeune homme qui est Isaac, Nenecha Ratko, nous irons jusqu'à 25, qui est 1 avant 26, chez ma vaillant. Vous voyez la différence? Po et Ko auraient pu s'écrire, Pevav et Pechav. Mais là, il y a un problème, vous allez le retrouver avec le Mishkan, c'est le problème de la transcendance. Quoi qu'il en soit, devant Dieu, Il y a toujours un décalage entre la sainteté de la créature et la sainteté de Dieu. Et la mesure de la sainteté naturelle, c'est le chiffre de 85. C'est écrit P. Et la mesure de la sainteté de Torah Hashem pour l'avenir du monde réussi, c'est ce mot de Ko, café, d'indice 25. Et c'est une phrase très importante de la révélation à Israël. Chaque fois que vous venez dans un verset, Ko Tomar, Bene Israël. Ko Tevaverho, Bene Israël. La révélation par Ko. Dans la révélation de la Torah, que la bracha, côte et vavir. Oui, on ne peut pas le raisonner en français. Et alors, ça s'est réservé à ça. Alors, c'est ce que Abraham va dire. Nous allons monter au lieu de la rencontre. Mais vous, Ishmaël et Eliezer, et rappelez-vous qu'on était sur le chemin de Damas. Ça vous donne une résonance avec la filiation du christianisme et de Damas. Et puis, vous resterez là au niveau de la sainteté naturelle. Et c'est dit en clair, dans une explication très profonde du Maharal, « Shevu lachem po aima hamor » littéralement avec l'âme qui pousse. Mais c'est le Homer, vous êtes au niveau de la matière. Vani Bernard et moi Isaac Nelecharatko. Mais là on va se poser le problème très important de la mystique et de l'ascétisme. Nous allons aller jusque là-bas, mais on va pas y rester. On va se prosterner et revenir vers vous. Et c'est ça la grande différence entre la mystique juive et toutes les autres mystiques. Toutes les autres mystiques, c'est aller vers l'horizon de l'idéal et y rester. En général dans le désert. Alors que, pour la Torah, eh bien, ce verset est très clair. Il faut avoir expérience de ce que disent les chassidim en parlant de Idmo. Je ne traduis pas, je cite pour les chassidim. Idmo de doute, Bitu la Yesh, Bitu la Metsidi. Mais c'est Venishtahave, Venashuva Alechel. La place du chassid, lorsqu'il est vraiment chassid, qu'il a une expérience de ce niveau de ko, c'est de revenir là où il y a po, de telle sorte que ça ne serve à quelque chose. Bon, mais je crois que le verset est très clair. Hein. N'oubliez jamais la fin du verset. Benishtarave, benashuva, alechem. Or, la semaine dernière, on a appris dans la Gemara de Papa Patra quelque chose avec ce niveau de sainteté naturelle. Quand je vous ai parlé, je vous ai aidé de sept chiffres Torah. Et comment on reconnaît un sefer avec le minimum de 85 lettres. Vous vous rappelez de ça? Alors c'est le niveau de la sainteté naturelle qui est un degré avant la sainteté elle-même, naturelle, 86, qui est la valeur numérique de Elohim et de la Teva. Et parce qu'il faut garder le principe de la transcendance. C'est l'ivresse qu'on retrouve chez Spinoza, par exemple, de croire qu'on peut s'identifier, jusque par contemplation, avec cette sainteté naturelle. Elle reste transcendante à la créature. Quel est le verset concernant Moïse? Vous rappelez que c'était Sifro chez le Moshe, 85. Vous rappelez de ça? Donc, alors, quel est le verset qui indique que c'est un de moins? Vous connaissez tous ces versets? Il a fait. Dis bien le verset. Dis le verset. Tu n'as pas formulé exactement? Il a fait. C'est dans ce contexte. Mais je sais que tu pensais à ça. Va t'asserrerou, merat. Mais ok, tu l'as amoindri un peu de Dieu. Il y a un peu miracle entre Moïse et Elohim. Mais Moïse a hérité de cette dénomination de Elohim Et c'est lui, parce qu'il a réussi à être à ce niveau de la sainteté naturelle, qui a été le porte-parole de Torah Hashem. Quel est le verset? Je sais pas pourquoi je l'interroge. D'accord, mais c'est pas celui-là que je cherche. On va y arriver. D'un autre. Au Mahamad Arsinaï. Vayaral Moshe.
Au Moshe
Ala Ela Elohim. Vayikra Ela Hashem et Roshar. Et Moïse est monté avec Elohim. Alors Hashem l'a appelé. Fais bien attention au verset. Il n'y a que celui qui réalise d'abord la sainteté naturelle, et elle s'appelle le Derech Eretz, elle s'appelle la morale, qui est appelée à Torah Hashem. S'il n'y a pas Irat Elohim, on ne peut pas monter de degré et s'occuper de Torah Hashem. Vous voyez l'inquiétude des anges. À quelle créature tu vas confier ta Torah? Tu ne peux confier ta Torah que à ceux qui sont déjà au niveau Elohim, et il faut faire un examen pour savoir si Moïse est à ce niveau-là. L'examen a été positif et Moïse a pu prendre la Torah. Mais c'est caractéristique que toute la tradition va dénommer cette réception de la Torah par Moïse d'un mot inverse, une prise. Alita lamarom, shavita shevi. Continue le verset. La carta maintenant de l'Adam. C'est le fait que tu étais vraiment Adam qui t'a permis de recevoir les dons que les anges t'ont fait. Je referme la parenthèse. Eh bien, non, c'était il y a 15 jours qu'on a vu ça, pas la semaine dernière. Le livre avec 85 lettres. À propos de la marche de l'huître. Alors, nous allons lire les premiers versets de la paracha. Je voudrais mettre en évidence la grandeur de Moïse en tant qu'il est chargé de transmettre au peuple la consigne de fabriquer le Mishkan et à quelles conditions le Mishkan est authentique. Il est vraiment ce qu'il doit être. Avec votre permission, je prends une pastille quand même, parce que je vais la mettre comme ça. Voilà, vaille d'avoir Hachem et Moshe les morts. Et Hachem s'est adressé à Moïse pour dire de près d'avoir et le béni Israël, parle aux enfants d'Israël. Véhicrouli Trouma, et ils prendront pour moi une offrande, mais et colliche, à chère il devenu libou, ticrou et terumat. De tout homme qui est porté par son cœur, vous avez la notion d'un nédava, générosité, d'un mouvement du cœur, qui vient du cœur lui-même. Retenez bien cette définition. Je vais employer des mots un peu philosophiques, de l'autonomie du sentiment moral, de la conscience morale. Pour que le Mishkan ait la valeur qu'il doit avoir, il faut que ça vienne des enfants d'Israël. Ça vienne de leur cœur. On verra pourquoi tout à l'heure. Tout de suite d'ailleurs. Alors, ici, il y a une particularité du style même des versets qui va bien poser notre problème. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit écrit comme habituellement. Vaïdaber Hashem el Moshe les mots. Daber el Ben Israël, Ve'amarta Alehem, Kechouli Teruma. On traduit habituellement la formule est parle aux enfants d'Israël et dis-leur prenez pour moi une offrande. Mais le texte dit parle aux enfants d'Israël et qu'ils me prennent une offrande. Il y a là tout le problème de la pédagogie de Moïse. et le mystère de sa réussite comme porte-parole de la loi. Je m'explique. Pour qu'une offrande soit une offrande, elle ne peut pas être commandée. Par conséquent, Moïse est devant une mission impossible. Il est chargé de demander aux enfants d'Israël ce que les enfants d'Israël devraient faire par eux-mêmes. Et vous avez compris la difficulté. C'est certainement une des raisons pour lesquelles il y a Veikrouli de Romain. Ils prendront pour moi, et l'intention c'est du qui parle, et Rachid va dire l'Ishmi en mon nom à moi, pour pas que les enfants d'Israël aient la tentation d'apporter l'offrande à Moïse, tout en sachant que c'est l'offrande que lui a demandé, mais c'est à Moïse qui l'apporte. Vous voyez que nous sommes au bord d'un problème extrêmement important, de l'authenticité des vertus et de l'accomplissement des devoirs. Je veux dire tout de suite comment, en philosophie générale, on pose le problème. Il est surtout posé chez un philosophe qui a beaucoup séduit les juifs, mais qui est tellement proche de la sensibilité juive, c'est un protestant, qu'il en est très loin. Comme on a appris souvent, on n'avait aucune idée à quel point les juifs ont été séduits par Kant. Comme j'ai l'habitude de dire à Pourri, chacun a son Kant à soi. Et c'est pas faux. Pour revenir au sujet, c'est le problème de l'autonomie ou de l'hétéronomie de la loi morale. Alors j'explique ces termes barbares. Hétéronomie, ça veut dire lorsque le devoir m'est transmis du dehors de ma conscience. La loi s'adresse à moi comme transcendante. Et le fait que j'adhère ou que j'adhère pas à ce qu'elle me demande, c'est un autre problème. Mais je perçois le devoir comme une voix qui me parle de l'extérieur de mon âme, de ma conscience. C'est hétéronomie, la loi, et de l'extérieur de moi. Or, on perçoit bien, et là je crois que ce n'est pas la peine de prendre trop de temps pour essayer de le démontrer, l'éducation biblique elle-même est talmudique. Nous habituons à cela, une vertu n'a vraiment de valeur que si elle vient de moi, et pas tant qu'elle est au stade où j'obéis à une discipline. Ça a sa vertu propre, mais c'est un niveau qu'il faut dépasser. Donc voilà, on va ouvrir la parenthèse dans la Mishnah. Mais j'espère que le problème est très clair. Hein. Alors Moïse va se trouver devant un problème, mission impossible, ordonner aux enfants d'Israël ce qu'ils doivent faire par eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est presque une paracha de Pourri. D'ailleurs, c'est relié à Purim, je vous dirai comment. Eh bien, la Mishnah dit ceci. C'est dans le premier chapitre de Pirkei Avot. Al-Tiyu Karabadim, Amshamshim et Arab, Al-Menat le Kabel Pras. Ça veut dire, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître en vue, dans l'intention d'eux, et en attendant de recevoir une gratification. Il n'y a pas ici salaire, il y a gratification. Mais soyez, et là, et vous, Karavadi, soyez comme les serviteurs qui servent le maître chez l'eau, Almenat le Kabel Pras. Pas en vue de recevoir une gratification. Il y a même certains yeshivot où on enseigne, surtout chez les chassidim de type Inatadim, par exemple la Chita de Fublen. Enseigne comme ça. Almenat shelo le kabel pras. Là, c'est déjà une hérésie, moi, je dirais. En vue de ne pas recevoir un salaire. C'est comme ça des masochistes. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi employer un style aussi indirect? Pourquoi la Mishnah n'a pas dit servez le maître, pas en vue de recevoir un salaire? Pourquoi ne soyez pas comme ceux qui servent en vue de recevoir un salaire, mais soyez plutôt comme ceux qui servent en vue de recevoir un salaire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous avez compris la question? C'est clair? Vous avez 2 minutes d'eau fraîche. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas compris la réponse. Je vais vous dire ça, mes maîtres, ils m'ont enseigné ça. Il y a deux sortes de questions. Il y a les questions qui ne se posent pas. Il y a les questions qui se posent. Et dans les questions qui se posent, il y a toujours la réponse dans la question. Quel est le problème qu'il y a derrière, qui oblige le tamin à se formuler de manière aussi indirecte? Et beaucoup de philosophes juifs sont tombés dans le piège. Je vais vous faire une citation de Pascal. Le silence des espaces infinis m'effraie. Pourquoi le Mishnah a dit « Ne soyez pas comme ceux qui servent en vue d'un salaire, mais soyez comme ceux qui ne servent pas en vue d'un salaire. »
C'est
l'autre assez. Mais ce n'est pas ma question. C'est vrai aussi. Mais avant d'arriver là, ma question est pourquoi cette forme indirecte? Pourquoi ne pas dire « servez » sans que ce soit en vue de recevoir un salaire?
J'ai deux commandements.
Tu dis la même chose qu'elle, mais ça porte sur la fin de la Mishnah. Non, je n'y ai pas parlé. Oui, mon vache, mais ma lechem, c'est l'otas. On l'a appris.
Ça doit venir de même, ça doit pas devenir un commandement extérieur.
Je ne sais pas si tu as compris, c'est la question. Parce que pour aboutir à ce que tu as dit, il suffit de parler de manière directe. Soyez comme ceux qui servent le maître, pas en vue de recevoir un salaire. Ça doit venir de vous. Non, c'est un souhait. Tes sourires. Tes désirs seront des ordres, mais c'est quand même un souhait. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes empêchés de voir la réponse à vous, oui.
Ça veut dire qu'on doit faire les choses dans le cadre de ses prérogatives et pas dans un projet quelconque, sans la vie.
Mais tu expliques très bien, tu approfondis la question. Non.
Parce que par principe, ça n'existe pas, le travail sans salaire.
J'entends pas.
Parce que par principe de la Torah, ça n'existe pas, un service sans gratification.
Et pourquoi tu dis pas les choses directement? C'est une manière encore trop indirecte de le dire. Parce que on est sur la Mishnah. La réponse est là. Mais il faut toujours répondre directement, pas indirectement. Parce que tu risques de penser qu'il n'y a pas de salaire. Et c'est ça, l'hérésie des Sadducéens, de Tzadok Ubaytus. Il y a un salaire, sinon le monde n'a pas de sens. Ça, je reviens après. Bien sûr, il y a un salaire. Mais méfiez-vous. Ne servez pas en vue. Ne soyez pas comme ceux qui servent en vue d'un salaire. Ils ont raison, ne faites pas comme eux. Parce que si vous servez en vue du salaire, et il y aura salaire. Mais le salaire n'est pas pour ce monde-ci. Sauf des cas particuliers qu'on étudie. Ou qu'un kayemet la olamaba, mais. Ochel perotayem ba olamazé. Avec un kayemet, c'est pour le olam là-bas. Et puis, la deuxième partie, mais soyez comme ceux qui ne servent pas en vue d'avoir un salaire, ils ont tort, parce qu'il y a un salaire. Donc il y a une consigne pratique. Si vous attendez le salaire, vous allez vous décourager. Ça va échouer. Parce que, et ça je vais expliquer rapidement grâce à l'enseignement du professeur Baruch, parce que le salaire moral, la sanction morale n'est pas comme la sanction de la loi de la nature. La sanction de la loi de la nature est immédiate et inéluctable. Tandis que la sanction morale, la loi morale, est toujours différée. Et alors si l'impact de la ferveur est dans cette impatience d'attente, vous connaissez le proverbe yiddish, il y a un jour un père de famille qui avait envoyé son fils gagner sa vie en Amérique, mais donne-moi des nouvelles. Au bout de X années, il n'avait pas de nouvelles. Alors, échange de télégramme. Le père dit « nous » et le fils répond « nous ». C'est un peu ça, c'est-à-dire, ça c'est vraiment là. l'injonction juive par excellence, un merveille. Nous, et alors alors ça s'effondre. Si l'impact de la ferveur est à ce niveau, ça s'effondre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des choses très importantes. Il y a un salaire. Et je dirais, ça c'est un problème pour lui-même. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je n'ai pas parlé de salaire. J'ai parlé de gratification. La question du salaire n'est même pas mise en jeu dans le vocabulaire de la Mishnah. Quelle est l'expression pour les tzadikim? Matan. Beda. Chez Matan, Sraran. Chez tzadikim, les hâtis de l'avant. Que le don du salaire des tzadikim, c'est pour le monde à venir. Et regarde la collision de concepts. Matan, Sraran. Si c'est un Srar, c'est pas un Matan. Et si c'est un Matana, c'est pas un Srar. C'est encore un autre sujet. Mais je reviens au sujet important. C'était cela qu'il y a. Pourtant, je n'ai parlé que des Sadducéens. Et c'est ça qui a induit l'erreur de Tzadok et Baïtous. L'enseignement des pharisiens, de leur maître, qu'il ne faut pas servir en vue du salaire, n'est même à déduire parce qu'il n'y a pas de salaire. Et que la vertu, c'est quand il n'y a pas de salaire. Et ça arrive, il n'y a pas de monde à venir, il n'y a pas de providence, l'hérésie totale et absolue, ça commence par là. Voyez à quel point c'est grave. Et nous avons toute une série de philosophes juifs contemporains, en Israël ou ailleurs, qui... écrivent la vertu de la gratuité mais pas de manière juive. Ce que je veux ajouter une phrase et je pense que ce sera assez clair, c'est que les deux consignes ne sont pas contradictoires. Il y a un salaire, mais gare à vous si vous servez en vue du salaire. D'où la forme indirecte de la Mishnah. Gare à vous si, à force d'être vertueux de manière gratuite, vous pensez qu'il n'y a pas de salaire. Parce que c'est le blasphème le plus épouvantable. Ça ne marche pas avec, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On est renvoyé à des mythes extrêmement orientaux. Ça veut dire, je vais vous donner un de ces mythes, qu'est-ce que c'est que le monde? C'est un rêve de Dieu. Dieu rêve. Et nous sommes les images du rêve. Il arrive qu'il y ait des cauchemars. Mais en règle générale, c'est notre choix. Alors il y a un jeu gratuit d'un espèce de mifletzel, de monstre, qui joue à rêver et à se faire peur dans des cauchemars. Et c'est ça l'histoire du monde. Mais ils vivent ça, ils y croient. Ne croyez pas que c'est un conte de fées, que c'est un mythe dans le sens dévalorisé du terme. C'est leur sagesse. Ils n'ont pas trouvé d'autre moyen d'expliquer le rapport entre la vertu et le sort dans la nature. Il y a en philosophie, dans la philosophie idéaliste anglaise, un grand philosophe, son nom me revient, c'est d'ailleurs un archevêque, Berkeley. C'est la philosophie de Berkeley qui s'appelle le solipsisme. Nous sommes des images dans la représentation de Dieu. Et alors, bon, je ne vais pas vous parler du solipsisme, mais vous voyez le danger d'une erreur à ce sujet. Alors, je reviens à la manière dont notre paracha a posé le problème, et c'est là qu'on va retrouver Kant, sans parler de lui, sinon par allusion. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Surtout cette Mishnah, puisqu'elle nous est arrivée dans l'étude. Il faut bien faire attention à ça. Vous avez énormément de Talmidei Chachamim que j'appellerai des apprentissages. Avant d'être sage, il faut être apprentissage. Eh bien, surtout quand ils sont jeunes, sont émerveillés d'avoir à dire non, c'est la vertu gratuite. Mais c'est l'hérésie la plus énorme. C'est le blasphème le plus énorme. Ça signifie que le Dieu en qui il croit, c'est un monstre. Et puis surtout, ça signifie qu'il ne croit pas en Dieu. Enfin, il ne sait pas de quoi il parle. Bon, vous avez compris à peu près la gravité du du problème. Alors je finis la Mishnah, tu vois, pour ta question. Ça va mieux. Ça c'est mon prince. Bien. La fin de la Mishnah c'est Vihi Mora Shamaim Alechem. Et que la crainte du ciel, la crainte de Dieu, je ne vais pas expliquer ici maintenant pourquoi il y a ciel, il faudrait une demi-heure. Que la crainte de Dieu soit sur vous. Ça, c'est la motivation de Mizot Lotas, la Ira. Mais la motivation de Mizot Rasé, c'est la Ahava. Toute l'explication du début de la Mishnah, c'est servir Dieu avec amour. Mais n'oubliez pas d'avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Et ça, je vous citerai la manière dont je l'ai entendu la première fois, et très longtemps, du grand rabbin Jaïs, qui avait enseigné ça au nom de son maître, et il avait appris le Talmud Torah à Alger, puisqu'il a commencé ses études à Alger. Il dit, la motivation de ce qu'il faut faire, c'est l'amour. Et la motivation de ce qu'il ne faut pas faire, c'est la crainte. Donc il faut les deux, la crainte. Il faut les deux vertus. Fais bien attention. Si l'amour n'a pas le filtre de la retenue que donne la crainte des valeurs, le respect des valeurs, c'est du cannibalisme. Vous avez des gens, vous avez ce genre de vocabulaire, et il faut voir ce qu'il y a derrière. Je t'aime tant, je te mangerai. Il faut se méfier de ça. Alors ça c'est l'explication classique. Il y a une explication de la Kabbalah qui est très jolie. Si vous servez Dieu avec amour, alors regarde comme c'est écrit, Vihi Mora Shamaim Alechem. La crainte de Dieu sera sur vous. Ça veut dire on vous craindra comme on craint Dieu. La Yirat Shamaim sera sur vous comme couronne. Vous avez compris la deuxième lecture, hein? Ce sera une conséquence. Si vous conduisez Be'ahava, alors c'est vous qu'on craindra. Et j'ai trouvé dans mes études une confirmation très étonnante. Un des coups précédents, j'avais parlé de cela, qu'il y avait une prérogative des premières générations de l'humanité, je ne sais pas si c'est à vous d'ailleurs que vous allez me dire, de savoir domestiquer les animaux sauvages. C'est à vous ?
La semaine dernière.
Et cette prérogative s'est perdue. Mais ce que j'ai appris en ethnologie quand j'ai étudié ces choses-là, c'est que les animaux, même sauvages, ont peur des tzadikim. Ils savent qu'ils ont affaire à un tzadik. Alors vous voyez le lion se coucher devant le saint. Et au contraire, s'ils sentent que c'est un rachat, ils chargent. Et ça je l'ai appris chez mes maîtres Goy. Au musée de l'homme. Alors, vous voyez donner d'ailleurs comme consigne,